Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 1er juillet 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 continue de gagner du terrain. Le président kényan William Ruto a annoncé hier n'avoir pas de sang sur les mains après la journée de manifestation antigouvernementale meurtrière du 25 juin. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé le nouveau gouvernement qui voit l'entrée du leader de l'opposition John Steenhuisen comme ministre de l'Agriculture. Dans notre partie magazine, en France, le Rassemblement national, le mouvement d'extrême droite, a atteint un score inédit lors du premier tour des législatives. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président mauritanien sortant, Mohamed Ould Cher El Ghazouani, est largement en tête à de l'élection présidentielle de samedi. Son principal opposant a déjà fait savoir qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du scrutin qui seront proclamés officiellement aujourd'hui. Mohamed El Ghazouani, 67 ans, détient 56,12% des voix après 100% du dépouillement, selon la plateforme en ligne de la Commission électorale nationale indépendante qui a publié bureau par bureau les résultats du scrutin. Le principal opposant, Biramda Abeid, 59 ans, est arrivé deuxième avec 22,10% des voix. Il a déclaré dimanche au cours d'une conférence de presse qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats de la CENI qu'il accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir. Nous descendrons dans la rue pour refuser le hold-up électoral, a-t-il martelé. La rébellion du M23 continue de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo, s'emparant de nouvelles localités ce week-end sur le front nord du conflit qui l'oppose aux forces gouvernementales. Les précisions de John Lindon.
Le M23 s'est déployé dans la localité de Kirumba, dans la province du Nord Kivu. Hier matin, avant d'être visible dans le centre de la ville, ils ont fait une reconnaissance de terrain en patrouillant tous les axes de Kirumba, a déclaré un responsable administratif local, ajoutant que les rebelles se dirigeaient vers le nord depuis Kirumba. Ils sont nombreux, certains sont arrivés à pied et d'autres dans des véhicules, a affirmé de son côté un responsable de la société civile. Le M23 a tenu dimanche une réunion à Kirumba et a annoncé à la population qu'il va à Butembo et Beni, puis à Kinshasa, selon un participant. « Nous allons vous libérer, allez dire à la population de Butembo que nous sommes en route. » Nous arrivons partout, a déclaré le général du M23, Gassiri Justin, lors de la réunion. Samedi, c'est la ville clé de Kanyabayunga qui est tombée aux mains des rebelles. Le président Félix Tshisekedi a réuni samedi un conseil de défense. S'exprimant à l'occasion de la journée d'indépendance, il a soutenu que des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC.
Au Nigeria, au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans plusieurs attentats suicides samedi dans la ville de Gwoza, dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Une kamikaze qui portait un bébé sur le dos a déclenché des explosifs au milieu des invités qui festoyaient juste après avoir assisté à un mariage dans la ville de Gwoza, a déclaré Naoum Kenneth Dasso, porte-parole de la police de l'état de Borno. Très ancré dans cette région du Nigeria frontalière avec le Cameroun, Boko Haram est connu pour avoir utilisé des femmes kamikazes dans sa lutte armée pour établir un califat dans le nord-est nigérian. Au Kenya, le président William Ruto a affirmé hier n'avoir pas de sang sur les mains après la journée de manifestation antigouvernementale meurtrière du 25 juin. Il a annoncé pour la première fois un bilan officiel de 19 morts. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
« Je n'ai pas de sang sur les mains », a déclaré le président William Ruto lors d'une interview à la télévision kenyane annonçant l'ouverture d'une enquête sur la façon dont ces 19 Kenyans ont été tués. Cette journée de mobilisation du 25 juin a été marquée par la prise d'assaut du Parlement par des manifestants suite au vote du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes. La police a alors ouvert le feu sur la foule. Samedi, l'ONG Human Rights Watch a affirmé avoir recensé au moins 31 morts dans plusieurs villes du pays. L'Agence officielle de protection des droits humains fait état de 22 personnes tuées, 23 selon le groupe de travail de réforme de la police, regroupement d'ONG locales dont la branche kényane d'Amnesty International. Hier, quelques centaines de personnes ont marché pacifiquement à Nairobi en hommage aux victimes. Ils ont scandé des slogans « Ruto must go », entendez « Ruto doit partir » et « Tuesday holidays », mardi jour férié, en référence à la prochaine journée de mobilisation prévue demain. Le président William Ruto a annoncé retirer le projet de budget à l'origine de la contestation.
Au Soudan, les forces paramilitaires en guerre contre l'armée depuis 14 mois ont annoncé avoir pris le contrôle d'une base dans la capitale de l'État de Sennar, dans le sud-est, provoquant la fuite de milliers d'habitants selon des témoins. Avec cette nouvelle percée, les paramilitaires resserrent l'étau autour de la ville de Port-Soudan dans l'état de la mer Rouge dans l'Est, où l'armée, le gouvernement qui lui est fidèle ainsi que l'ONU ont pris leur quartier. Les FSR contrôlent la majeure partie de la capitale Khartoum de l'état d'Al-Jazira au centre de la vaste région du Darfour à l'ouest, ainsi que de larges pans du Kordofan dans le sud. La Côte d'Ivoire a reçu cette semaine ses premières doses de vaccin contre le paludisme qui tue 4 personnes par jour, dont 3 enfants de moins de 5 ans dans ce pays, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Si le nombre de décès liés au paludisme a baissé en Côte d'Ivoire, cette maladie demeure la première cause des consultations médicales, selon le ministère de la Santé. L'État ivoirien organise par ailleurs des distributions de moustiquaires et des pulvérisations d'insecticides dans les zones endémiques. En Afrique du Sud, le leader du premier parti d'opposition, Johnston Huisen, de l'Alliance démocratique, entre au gouvernement en tant que ministre de l'Agriculture. Dans une allocution hier à la télévision, le président Cyril Ramaphosa a annoncé le nouveau gouvernement. Les détails avec Nanit Talani.
Johnston Huisen devient ministre de l'Agriculture, un ministère allégé du développement rural et de la gestion de la terre, a annoncé le président Cyril Ramaphosa. Son parti, l'Alliance démocratique, a décroché 6 ministères dans l'environnement, l'éducation ou les travaux publics contre 6 postes pour de plus petits partis. L'opposition arrache au total 12 des 32 ministères annoncés au sein du nouveau gouvernement. L'ANC conserve donc la part du lion avec 20 ministères, dont les affaires étrangères, la défense, l'énergie et les finances. Le président sud-africain a en effet reconduit Enoch Godongwana au poste de ministre des Finances et nommé Gwede Mantashe au poste de ministre des Ressources minérales et pétrolières. Ronald Lamola bénéficie du portefeuille de ministre des Relations internationales et de la coopération. Le président Ramaphosa, dont le parti, l'ANC, reste majoritaire, va diriger ce nouveau gouvernement de coalition auquel participe la DA aux côtés de 8 autres petits partis.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont inauguré samedi au Caire le Forum Union européenne-Égypte sur l'investissement, l'emploi, la croissance économique, les énergies vertes et renouvelables sont les principaux sujets à l'agenda du forum, a affirmé le président égyptien lors du discours d'inauguration de cette conférence qui a pour but, selon lui, de permettre aux entreprises européennes de bénéficier d'opportunités d'investissement en Égypte. L'Union européenne et l'Égypte ont signé en mars un partenariat stratégique pour 7,4 milliards d'euros, notamment dans les domaines de l'énergie et de la migration.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, l'extrême droite amenée par le jeune Jordan Bardella est arrivée en tête dimanche du premier tour d'élections législatives historiques selon les premières estimations des instituts de sondage. Le point avec Gabi Dorsil.
Avec plus de 34% des suffrages, le Rassemblement national et ses alliés devancent la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire qui obtient entre 28 et 29%. En troisième position, le camp du président Emmanuel Macron compte entre 20 et 21% des suffrages. Les Républicains qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent à 10%. Face au Rassemblement national, l'heure est à un large rassemblement clairement démocrate et républicain pour le second tour, a affirmé Emmanuel Macron. Le bloc macroniste est pratiquement effacé après le premier tour, a estimé la figure de proue de l'extrême droite Marine Le Pen. Les Français ont rendu un verdict sans appel, s'est félicité Jordan Bardella, 28 ans, et chef de file de l'extrême droite. Il a ajouté que le second tour, le 7 juillet, sera l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République. Bardella a assuré que s'il l'emporte, il sera le Premier ministre de tous les Français. Un Premier ministre de cohabitation, respectueux de la Constitution, mais intransigeant.
L'armée israélienne a bombardé aujourd'hui la bande de Gaza, notamment le nord où les combats se poursuivent contre le Hamas dans le secteur de Tchoudjaïa. Nos forces sont en opération à Rafah, partout dans la bande de Gaza, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Devant le cabinet de guerre, l'armée y a annoncé y avoir la veille éliminé plusieurs terroristes découverts, des armes menées, des raids ciblés sur des positions de combat piégées et avoir frappé des dizaines d'infrastructures terroristes. Par ailleurs, l'organisation palestinienne Djihad islamique a indiqué que Saïd Izzat, un combattant de sa branche armée, a été tué dans une frappe israélienne près de Tul Karem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a précisé que 3 projectiles avaient été tirés par un drone contre une maison depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Les violences se sont intensifiées en Cisjordanie. En avril, 14 personnes avaient été tuées en 2 jours par des tirs israéliens à Nour Shams, selon le Croissant Rouge. La région de Zaporizhia, dans le sud de l'Ukraine, a été décrété une journée de deuil dimanche au lendemain d'une frappe russe qui a fait 7 morts et près de 40 blessés. 8 personnes ont été tuées en 24 heures dans des villages de l'est du pays, a annoncé l'Ukraine. La Russie affirme avoir annexé la région de Zaporizhia, mais si elle en occupe de vastes pans, elle ne la contrôle pas totalement. La Corée du Nord a tiré lundi 2 missiles balistiques de courte portée, a rapporté l'armée sud-coréenne au lendemain de menaces de Pyongyang qui a mis en garde contre les conséquences fatales. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le fournisseur de services pétro-gaziers Northern Ocean a obtenu un marché de forage de puits dans les eaux territoriales de la Namibie. Le contrat concerne un puits d'exploration dans le bassin d'Orange via sa plateforme Deep Sea et Bolsta. L'exécution du forage devrait débuter en fin d'année pour une durée d'environ 2 mois. Le producteur d'électricité Solar Africa Energy a annoncé avoir lancé la construction de son premier parc solaire à grande échelle dans la province du Cap Nord en Afrique du Sud. La phase 1 de Sun Central totalisera une capacité d'environ 342 MW et les 2 phases suivantes devraient porter le total à 1 gigawatt. L'Égypte a dévoilé un premier lot de véhicules ferroviaires fabriqués localement composés de 10 rames de métro et 80 voitures. Ils ont été conçus dans l'usine CEMAF de l'Organisation arabe pour l'industrialisation en collaboration avec le groupe sud-coréen Hyundai Rotem. Le consortium devrait investir 656 millions de dollars pour 30 trains de 320 voitures d'ici 2028.
Place maintenant au sport avec Élisée Ongpatan. Bonjour Élisée.
Bonjour Rosine et bonjour à tous.
Du foot à l'heure avec la suite des 8e de finale et ça passe pour l'Espagne.
Oui, la Roja a souffert en évitant le piège Georgie. Héroïque pour sa première grande compétition, les Georgiens vont réussir à surprendre l'Espagne en ouvrant le score. Mais les coéquipiers d'Alvaro Morata, dominateur, ont totalement surclassé l'équipe entraînée par Willy Sayol 4-1. Ils s'ouvrent le chemin des quarts de finale et vont défier l'Allemagne, le pays hôte, dans un énorme choc. De son côté, l'Angleterre, qui n'est pas passée loin de la catastrophe, est parvenue à renverser la Slovaquie 2-1 après prolongation. Elle jouera en quart la Suisse, qui a écarté le champion en titre l'Italie.
La suite de ces 8e de finale avec 2 matchs au programme ce lundi, dont un France-Belgique.
Une confrontation qui s'annonce aussi serrée qu'indécise. Auteur d'une phase de poule en demi-teinte, les deux équipes s'affrontent pour une place en quart de finale. Une équipe de France qui ne réussit souvent pas aux Belges ces dernières années. On a encore en mémoire la Ligue des Nations en 2021 et surtout les demi-finales de la Coupe du Monde de 2018. Un souvenir douloureux pour Johan Bakayoko, l'ailier droit de la sélection belge.
Oui, j'ai avec beaucoup de douleur comme tous les Belges. J'ai vu que oui, la Belgique aurait dû gagner, mais ça c'est un autre débat. Et non, je pense que faire partie justement de cette équipe aujourd'hui qui a la chance de rejouer un huitième de finale contre la France, c'est beau pour moi personnellement.
France-Belgique, coup d'envoi du match à 16h temps universel. Le vainqueur sera opposé soit au Portugal ou à la Slovénie. Les deux équipes s'affrontent à 19h TU.
On se rend en Afrique du Sud où se joue la COSAFA Cup.
Oui, un tournoi qui oppose les équipes nationales de l'Afrique australe. 12 sélections réparties dans 3 groupes de 4. Et hier, c'est le Zimbabwe qui prend seul la tête du groupe B suite à sa seconde victoire en 2 matchs. Les Comores sont deuxièmes avec 3 points après avoir battu le Kenya 2-0. Deuxième journée également dans la poule C aujourd'hui et au programme. Angola, Seychelles, Namibie, Lesotho. À noter que la compétition a été créée en 1997 après la réintégration de l'Afrique du Sud.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Direction la France où le Rassemblement national a atteint un score inédit lors du premier tour des législatives. Le parti d'extrême droite arrive en tête et confirme donc la tendance observée lors des européennes. 3 semaines après la dissolution de l'Assemblée nationale, le RN et ses alliés se placent largement en tête avec 33,2% des voix. Alors que le RN pourrait obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, la gauche et la majorité présidentielle appellent à faire barrage au parti de Jordan Bardella pour le second tour dimanche prochain. Le reportage de notre correspondante Elham Locker à Paris.
C'est un succès historique pour le Rassemblement national qui fait craindre le pire chez certains électeurs binationaux comme Nancy franco-congolaise.
Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent très dur, qui cotisent pour la France, qui se réveillent très tôt le matin et qui font beaucoup de choses pour la France. Et il ne faut pas dire que non, c'est les étrangers ou les gens qui viennent de l'extérieur qui viennent gâcher la France, non.
Pour d'autres, cette montée de l'extrême droite montre qu'il est temps de partir. Farid, informaticien, pense à faire ses valises dans les prochains mois.
Je suis né là, j'ai grandi là, même si je vais souvent au Maroc. Bon, au Maroc, c'est mon pays, certes, c'est une partie de mon pays, mais c'est pas ma. Ça veut dire, c'est pas mon quotidien, c'est pas mon pays. Je connais pas la mentalité marocaine, j'ai pas vécu au Maroc. Mais pourquoi pas, je suis prêt à rentrer au Maroc s'il le faut, quoi. Il faut qu'on arrête avec. Il faut aussi qu'on ait une certaine dignité, une fierté, quoi. Si après tout, ils nous aiment pas, on n'est pas obligé de venir et de rester là. Moi, je rêverais que les immigrés aillent ailleurs où ils sont appréciés et accepté. Parce que le problème en France, c'est qu'ils en ont besoin. Partout, ils travaillent, ils sont là. Qui fait tourner la France? Je vous défie d'aller dans les hôpitaux. Je vous défie d'aller dans n'importe quelle institution. Ceux qui vous traiteront et qui vous soigneront ou bien qui vous emmèneront, votre Deliveroo, ce sera toujours 90%, voire 95% des mêmes.
Du côté des partis politiques, à gauche, comme dans la coalition présidentielle, on en tire les leçons et on appelle à faire barrage partout au Rassemblement national. C'est le cas d'Aïda Adizadeh au Parti Socialiste.
Il y a eu de la part du camp présidentiel, notamment le Premier ministre, un appel très clair au désistement de tous les candidats de son camp arrivés troisième dans le cadre de triangulaire, pour appeler à ce que les candidats qui soient en duel devant le RN soient largement élus. Et donc rien n'est écrit. On a une semaine pour faire en sorte de réécrire l'histoire de France et de battre le RN partout où l'on peut pour ne pas leur donner de majorité demain dans le pays.
Dimanche prochain, l'extrême droite pourrait obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La campagne d'entre-deux-tours s'annonce donc très courte et les enjeux cruciaux à quelques semaines des Jeux Olympiques. Elham Lecoeur, VOA Afrique, Paris.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Le Nigeria est l'un des principaux producteurs mondiaux de gingembre, mais une épidémie massive de maladies fongiques l'année dernière a entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars. Le gouvernement nigérian a lancé une intervention d'urgence pour aider les producteurs de cette plante. Timothy Obiezu nous propose ce reportage depuis Kaduna, réputé pour son gingembre. Le récit est de Jacques Aristide.
En 2023, l'agriculteur Paul Solomon Aboui a planté un hectare de gingembre dans son champ de Katcha, dans le nord-ouest de l'état nigérian de Kaduna. Mais en juillet de la même année, la maladie du gingembre a frappé sans avertissement et aucun de ses rhizomes n'a survécu.
Je m'attendais à plus de 400, voire 500 sacs de gingembre, mais au final, rien.
La maladie provoque la pourriture des rhizomes souterrains et fait dépérir la plante. Comme Aboui, des milliers de producteurs de gingembre ont du mal à faire face aux pertes.
Certains sont morts, certains sont tombés malades psychologiquement. Comme nous, nous l'avons ressenti psychologiquement. Nous avons simplement fait comme si de rien n'était.
Le Nigeria est l'un des principaux producteurs mondiaux de gingembre, en concurrence avec l'Inde et la Chine. En 2021, le pays produisait près d'un sixième de l'offre mondiale. Selon le gouvernement, l'épidémie a provoqué des pertes évaluées à environ 6,5 millions de dollars et a affecté autour de 7 000 agriculteurs, principalement dans le sud de l'état de Kaduna, région décrite comme la plaque tournante du gingembre au Nigeria. En ce mois de juin 2024, environ 5 000 agriculteurs ont commencé à recevoir du gouvernement des plants, des engrais et des produits agrochimiques. Les autorités tentent également d'inculquer aux agriculteurs locaux de meilleures méthodes agricoles. Daniel Bitrus, autre producteur de gingembre, a bénéficié du programme gouvernemental, mais trouve dommage qu'il ne soit pas arrivé plus tôt.
Nous aurions voulu que ces aides aient été proposées vers avril. Les semis précoces donnent de bons résultats.
Abuja indique que les recettes des exportations de gingembre pourraient ajouter 6,3 milliards de dollars à l'économie du Nigeria d'ici 2030. Mais les agriculteurs affirment qu'avec une intervention gouvernementale limitée, cet objectif n'est pas susceptible d'être atteint à la date prévue, même en tenant compte du facteur de la chance.
Le désaccord sur la démarcation de 36 km de frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria devrait trouver une issue d'ici la fin d'année 2025. C'est ce que recommande l'Organisation des Nations Unies aux deux parties réunies au cours d'une session extraordinaire de la commission mixte. Le processus de démarcation entre le Cameroun et le Nigeria dure depuis 12 ans. À Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Juntap.
Depuis août 2022, le Cameroun et le Nigeria ne s'étaient plus retrouvés pour discuter de la mise en œuvre de la décision de la Cour internationale de justice sur le différend frontalier entre les deux pays. En cause, un désaccord existe entre les deux pays sur la démarcation des frontières terrestres. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, UNOWAS.
Il y a trois villages sur lesquels les délégations n'étaient pas d'accord. Dans la dernière session de la commission mixte, la décision nigérienne avait décidé de saisir la Cour internationale de justice pour faire l'interprétation de la décision prise auparavant. Mais nous avons travaillé avec les délégations pour attirer leur attention que cette procédure irait nécessairement prendre beaucoup de temps. Nous avons fait appel à leur bon sens pour trouver une voie négociée.
Le Nigeria a finalement désisté à saisir la Cour internationale de justice sur le tracé de 36 km de frontières terrestres avec le Cameroun dans les trois villages en question. pour Abuja, le village Rumsiki, situé dans la région de l'extrême nord au Cameroun, et les collines touristiques qui s'y rattachent font partie du territoire nigérian, de même que les villages Touro et Kocha. Après 2 jours de discussion à Yaoundé, la fin d'année 2025 a été projetée par l'ONU pour achever la mise en œuvre pacifique de la décision de la Cour internationale de justice. Un réel motif d'espoir pour Michel Zoa, chef de la délégation du Cameroun au sein de la commission mixte.
Non seulement la commission s'est réunie en session extraordinaire, mais elle a atteint des grands résultats. L'approche concernant les populations, les besoins des populations, le développement, le renforcement de la coopération transfrontalière, y compris l'exploitation des hydrocarbures le long et à cheval, n'est-ce pas, de la frontière, tout cela va constituer des mesures de confiance extrêmement fortes.
Depuis 2002, 2400 bornes sur les 2600 prévues ont été implantées pour démarquer la frontière terrestre entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux pays doivent aussi signer d'ici 2025 un accord cadre sur l'exploitation conjointe des hydrocarbures à cheval ou le long de leurs frontières maritimes. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le Gabon s'offre un festival international du film. Libreville vient d'abriter une édition test avec la participation de grandes figures du cinéma africain. L'événement s'est refermé sur une remise symbolique de distinction aux pionniers du 7e art africain et aux jeunes réalisateurs locaux. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Organisé sur le site de la Baie des Rois, quartier d'affaires en chantier sur le front de mer à Libreville, le Festival international de films a connu un début timide avant de s'emballer. Copa de Chanel fait partie des cinéphiles abonnés aux projections sur écran géant.
Vu que le commun est fermé, ça ne court plus les rues, donc du coup c'est un privilège d'avoir une projection de ce genre. Voilà pourquoi je suis là.
Vous aimez le film gabonais ?
Oh, je l'adore. Parce que si nous-mêmes, en tant que Gabonais, ne consommons pas nos produits, qui va le faire ?
Formation en écriture de scénarios pour les passionnés du cinéma et des débats autour de l'industrie cinématographique ont été au menu de cette première édition. Elle s'achève sur des récompenses et distinctions offertes aux techniciens et réalisateurs connus pour la qualité de leurs œuvres. Nathalie Pontalier, réalisatrice gabonaise.
Je suis vraiment très heureuse, notamment déjà de l'honneur que j'ai eu de pouvoir participer au festival. L'honneur aussi de pouvoir enfin avoir à nouveau ce genre de festival avec autant d'envergure, le fait aussi d'être auprès d'autres réalisateurs internationaux.
13 œuvres africaines, dont 6 produites par des Gabonais, ont été suivies tout au long de ce festival. Désormais, le comité de l'organisation fait de Libreville une destination cinématographique. Noël Bouzanga est coordonnateur du festival de Libreville.
Nous allons faire notre petit chemin et puis évidemment faire un plaidoyer sur la vie culturelle, la vie cinématographique, parce que vous savez qu'au Gabon, on a une vraie crise dans le secteur. Nous avons des salles de cinéma complètement fermées, alors que paradoxalement, il y a de plus en plus de comédiens, de producteurs, de réalisateurs.
Une des grandes figures du cinéma africain invitée de ce rendez-vous culturel, Rasmane Ouedraogo, réalisateur burkinabé.
J'ai traversé l'Afrique pendant près de 50 ans, dans tout son combat culturel. Et c'est un devoir pour nos pays de favoriser la promotion de la culture. Et ce festival-là qui est en train de naître ici, il faut que ce soit un agenda important, majeur, des activités culturelles en Afrique.
La seconde édition du Festival de Libreville porte des rêves et des projets, dont la mise en place des ciné-écoles à travers le pays. Libreville, Ismaël Obiangze, pour VOA Afrique.
Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir,
C'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounezero, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.